Et oui, pour parler du documentaire Le clown est triste, documentaire que j'ai vu et qui est vraiment touchant. Et pour en parler, j'accueille l'idéatrice et réalisatrice Emmanuelle Plante. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Et aussi l'autre réalisateur, vous êtes deux co-réalisateurs finalement, et le monteur du documentaire Giuliano Bossa. Bonjour Giuliano.
Bonjour.
Alors, commençons par vous demander pourquoi vous avez décidé de créer un documentaire sur le sujet, les humoristes qui ont des problèmes de santé mentale.
Mm-hmm. Bien, je pense qu'en fait, c'est un constat qu'on avait depuis déjà un certain temps. Moi, ça fait quand même longtemps que je travaille au contenu en télévision, puis c'était des choses que j'entendais des fois de certaines insécurités d'un tel, l'anxiété. Puis il y a de plus en plus de nouvelles qui sont sorties dans les médias. Bon, il y a de plus en plus d'humoristes aussi qui ont identifié certaines de leurs vulnérabilités. On pense à P.A. Méthode avec la bipolarité, Michel Mambara aussi à l'époque, Michel Courtemanche, même plus récemment, dans son dernier spectacle, Louis-José Houde parlait d'une dépression. C'était quelque chose, c'était comme un constat. Bon, Sam Breton récemment souffert d'épuisement, annulé sa tournée. Je veux dire, c'était un constat comme général, puis étant donné que je travaille sur d'autres émissions puis que j'ai à parler à certains agents, tu sais, je tâtais le pouls un peu à savoir est-ce que c'est un sujet qui pourrait être pertinent. Puis les agents me disaient, hey, wow, c'est vraiment très, très, très pertinent d'en parler. Tu sais, on n'en parle pas assez au niveau des humoristes. Puis on parlait de plus en plus de la santé mentale. Fait que des agents m'ont comme encouragé à aller de l'avant puis à creuser ça. Puis ensuite, en parlant à Louise Richer aussi, qui est à l'École nationale de l'humour, tu sais, qui m'a aiguillée, puis qui fait partie du documentaire, puis qui disait ce qu'elle avait mis en place justement parce qu'elle sentait qu'il y avait ce besoin-là, puis que les élèves l'exprimaient, puis que d'anciens élèves, donc des gens qui sont aujourd'hui en humour, avaient exprimé comme besoin d'être un petit peu plus appuyés puis encadrés à ce niveau-là. Fait que c'était un petit peu tous ces éléments-là qui ont fait en sorte qu'on a eu envie de faire un documentaire. Puis, on savait aussi que Belle, chaque année, vont de l'avant avec un documentaire qui traite de santé mentale. Ils en ont parlé chez les sportifs, notamment. Ils ont parlé des troubles de santé alimentaire, là, boulimie, anorexie et compagnie. Puis là, on s'est dit, bon, mais on va leur proposer dans le cadre de Belle Cause pour la Cause. Fait que c'était un moyen d'en parler puis d'avoir le support puis d'aller de l'avant aussi avec Belle dans ce cadre-là.
Est-ce que ça a été difficile de convaincre des humoristes de participer à votre documentaire? Vous avez nommé Michel Courtemanche, on ne le voit pas. Sam Breton, on ne le voit pas. Louis-José Houde, on ne le voit pas. Comment vous avez choisi les humoristes qui font partie de Le clown est triste?
Bien, on a eu plusieurs discussions. Je ne vous cacherai pas que la liste était très longue. C'est d'où le besoin. Là, on voyait que c'était quand même un sujet qui était porteur, puis en tout cas qui touchait beaucoup, beaucoup d'humoristes. En faisant le booking, tu sais, on s'est rendu compte aussi que les humoristes ont l'habitude de contrôler aussi leur information. Puis c'est plus flagrant maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans parce qu'avec les réseaux sociaux, ils peuvent s'exprimer directement à leurs followers, à leurs fans, puis tout ça. Fait qu'ils préfèrent peut-être contrôler eux-mêmes l'information. Fait que c'est sûr qu'il y a certains humoristes qu'on a approchés qui étaient un peu plus réticents parce qu'effectivement, ils sont à l'aise d'en parler sur scène d'une façon, en contrôlant le message.
Dans un numéro.
Dans un numéro. Puis ça aussi, c'était un aspect qui nous intéressait, Giuliano et moi, de se dire, ah ben ils en parlent sur scène, de quelle façon ils en parlent, puis c'est quoi le processus entre le moment où tu penses que tu as un problème, le moment où tu es diagnostiqué, puis le moment où tu en parles. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, on a eu certains refus. Mais on voulait quand même avoir un beau portrait de toutes les générations. Donc, nous-mêmes, on s'est fait nos propres choix, là, une liste des gens vers qui on souhaitait aller. Puis, on a été vraiment touchés que certaines personnes nous fassent confiance. Je pense à Mario Jean, Mario Jean qui avait jamais adressé la question et dont le témoignage est vraiment très touchant. Puis pour un homme de cette génération-là, c'était quand même plus rare d'en parler. En même temps, on a des jeunes comme Maud Landry, Coco Béliveau qui en parlent plus aisément sur scène, mais on voulait aussi aller chercher le bassin des jeunes. C'est eux en parlent plus, mm-hmm. sont plus à l'aise avec ça. Fait qu'on voulait toucher toutes les générations. Donc, on est vraiment reconnaissant auprès de ceux qui ont accepté d'embarquer avec nous, puis surtout de nous faire confiance, parce que c'est quand même quelque chose qui est intime. Puis encore là, je dirais, le Giuliano montage se cassait la tête parce qu'on a énormément de matériel.
Mais c'est ce que
ils
je voulais
se sont
demander.
Livrés avec beaucoup de générosité. Fait ouais. que... c'est sûr qu'on est reconnaissant, mais c'est ça, c'est un sujet sensible, puis ça n'a pas été évident pour certains d'embarquer, mais ceux qui ont embarqué avec nous, ils l'ont fait vraiment avec...
générosité.
Une très grande générosité.
Ah oui. Oui. Et Giuliano Bossa, donc vous vous êtes un peu arraché les cheveux sur la tête, une chance que vous avez beaucoup de cheveux, là. Ben,
merci de le souligner.
Pour faire le montage du documentaire, parce qu'il y a des images d'archives, comment vous avez procédé?
Ben, l'idée, encore là, c'était tout en préparation. Moi, dans le fond, Emmanuel m'a approché pour me proposer le documentaire.
C'est une première collaboration oui. entre vous deux, oui.
Oui, oui. Puis elle m'a approché parce qu'elle cherchait surtout, mon rôle était surtout d'arriver avec une façon d'aborder visuellement les thématiques, le sujet. Fait que ça a commencé comme ça parce que je pense que c'est important en documentaire d'avoir une structure pour être capable après ça de placer tes éléments puis d'avoir un petit plan un peu, là, un squelette, dire « OK, on va parler de ça ici, de ça là ». Donc, ça a commencé comme ça et moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est l'idée du mécanisme de l'humour, que beaucoup des humoristes, ça part de leur jeunesse. L'humour a été un mécanisme de défense, une façon de se faire des amis, une façon de combattre des fois le rejet, la
de
solitude.
De sentir aimé.
Exactement. Puis ça c'est abordé surtout à l'école de l'humour avec Louise Richer. C'est cette psychologie-là qui suit les humoristes tout au long de leur vie, c'est venu finalement à tout définir, leur vie. Je pense en montage, c'était difficile, oui et non, parce qu'en même temps, quand tu as plein de bons stocks, mais c'est aussi facile de monter un bon documentaire. C'est quand, justement, tu cherches que là, c'est plus difficile.
Mais faire des choix aussi, ça peut être
compliqué.
Mais
c'est sûr
parfois.
Que, oui, des fois, c'était rough parce que la première version que j'ai envoyée, on se disait tout « Ah, je vois juste qu'est-ce qu'on n'a pas mis. » Parce que tu dis « Ah, quand Mario il a parlé de ça. Oh my God, quand Coco a dit ça. » On aurait pu faire 2-3 documentaires qui seraient allés dans 2-3 directions différentes. Mais je pense qu'avec une structure qu'on s'établit au début en se parlant, en disant quelque chose qui est générationnel, justement, de parler autant du tabou qu'il est plus tant avec les plus jeunes, que d'aborder justement le monde dans lequel on vit, plus technologique, social, avec cette pression-là. Mm-hmm. D'abord, la structure, ça nous a aidé aussi en montage d'arriver à Comme Gars. Ça ressemble à ça, notre plan là, qu'on avait en tête. Oui, OK, bon, allons-y avec ça, parce que sinon... T'es toujours en
on
train
s'père.
De choisir. Ouais, exact. Alors, non, finalement, on est très, très contents. C'est sûr qu'on a plein de contenus exclusifs si on voudrait, mais bon.
Puis, il y a quelque chose, en fait, avec Giuliano, c'est que je souhaitais, puis c'est la raison pour laquelle je souhaitais travailler avec lui, c'est aussi avoir une image un peu plus cinématographique. Puis, on parle souvent de santé mentale, mais des fois, on n'arrive pas à bien décrire ou à bien comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en situation, par exemple, de crise de panique ou d'anxiété. Puis oui. quand je discutais avec Giuliano, je disais, ça serait le fun d'essayer avec, je ne sais pas si c'est des rigs, des rails, des façons de travailler avec des filtres. Tu sais, j'avais pas tout à fait le langage technique, si je peux dire. Puis là, je savais que Giuliano, lui, c'est un cinéaste aussi à la base. Fait que j'avais envie d'avoir comme des belles images puis d'entrer un peu dans la tête des humoristes.
De faire ressentir.
De faire ressentir exactement ce que les humoristes ressentent. Puis les humoristes sont bons pour mettre des mots sur leurs mots. Ouais. Fait que on a vraiment eu quand même créativement du plaisir, même si le sujet est pas jojo. Là, on a eu du plaisir quand même à créer ces univers-là qui sont
sans
uniques.
En abuser, je dirais.
Non.
Non, exactement. Non. C'était, je pense que c'est quand on a trouvé cette idée-là qu'on appelle, nous, le dialogue intérieur, parce que c'est pas des évocations. Ça, c'est les séquences en noir et blanc dans le documentaire. C'est ça, on se dit comment qu'on peut faire ressentir aux gens qui vont regarder, pas juste que c'est un témoignage parlé, mais de vraiment ressentir c'est quoi avoir une crise d'anxiété. Là, en plus, dans le documentaire, pendant l'entrevue avec Simon Gouache, il y a eu un moment où est-ce que lui, ça y est arrivé. Moment donc qu'on a traité avec respect parce que justement, c'était la réalité qui le rattrapait. Mais sinon, on voulait fabriquer pour montrer c'est quoi certains symptômes liés à l'angoisse, à l'anxiété. Et fait que c'est toute cette démarche-là qui nous a amené à l'approche qui finalement qui est le documentaire. Mais c'était important ça pour nous de pas seulement avoir un témoignage, mais de le faire ressentir à l'auditoire. Mm.
Puis pour revenir sur ce que Giuliano dit par rapport à Simon Gouache et un peu aussi quand vous posez la question sur le casting, quand on a rencontré, parce qu'on a fait des grandes entrevues avec chacun des humoristes avant, donc pas vraiment en pré-entrevue
pour préparer. Ils ont passé des auditions.
Genre.
Enfin, on leur a parlé, puis une des questions qu'on leur posait, c'était... On voulait être certain qu'en abordant cette question-là, puis en allant jouer un peu dans leur tête, on n'allait pas faire ressortir des sentiments qui ne sont pas désirés, des émotions, des impressions. On ne voulait pas les faire rechuter, là, d'une certaine façon.
Gratter le bobo encore.
Oui, parce que ça, c'est...
À un moment donné, ça vient, c'est mal... Oui, c'est ça.
C'est ça, parce que ça, c'est
délicat. Il y a une crise à déclencher.
Ouais. Ben, oui, tout à fait. Puis je me souviens d'avoir posé la question à Simon, puis Simon, il avait dit « Ah non, pas de danger. Maintenant, je suis médicamentée, je sais comment ça fonctionne.
Je contrôle la situation.
Je comprends mon corps. » Puis effectivement, en jasant, il voulait si bien nous expliquer ce qu'il ressentait que, comme il fait de l'anxiété ruminatoire, ça a fait ressurgir une émotion de son anxiété ruminatoire. Puis tout de suite, on a pris une pause.
Une pause, ouais, l'anxiété ruminatoire.
C'est que il va constamment se répéter les mêmes choses et en être insatisfait. Donc là, c'est comme si tu es dans un tourbillon d'idées négatives.
Il l'a vécu d'ailleurs dans un spectacle.
Oui. Donc c'est ça. Puis pour nous, quand on a fait quand on a choisi les humoristes, c'était vraiment important qu'ils soient prêts, comme qu'ils soient un moment de leur vie. Où ils puissent partager cette expérience-là d'une façon sereine, qu'il y ait un recul, c'est ça, exactement. Tu.
Et le tournage du documentaire a été fait au Théâtre Le National, une institution qui a vu passer sur ses planches des grands artistes comme Lapoune, Maude Parent, Olivier Guimond, père et fils, et j'en passe. Est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y a un symbole-là à voir, le choix de ce lieu-là?
Bien, on voulait un théâtre, assurément. Puis, quand on a visité celui-là, bien, Giuliano a eu un coup de cœur, là.
C'est un lieu. Trouver un lieu, là, c'est demander à n'importe qui dans le domaine. C'est toujours compliqué, tu sais, pour les dates de tournage et tout. Fait qu'on a regardé plusieurs différents lieux. Puis, on était un peu à minuit moins un, là, où est-ce que Manuel a eu le flash? Puis finalement, c'est ça, c'était un espace qui était parfait pour l'atmosphère qu'on désirait aller documenter. Mais non, c'est ça, c'est juste un bel addon que c'est arrivé de même. Okay. Puis dans le fond, des fois, j'aime ça dire que c'était dans les étoiles un peu. Là,
oui, parce qu'en faisant la visite, on fait toujours des visites techniques aussi, des visites de lieux avant de s'installer. Puis quand la personne qui nous a fait faire la visite s'est mise à nous raconter l'histoire du théâtre, a baissé le rideau qui est le rideau d'origine. Ouais. C'est tous des éléments dont on n'avait pas connaissance en les approchant une première fois.
Ça a certainement inspiré les humoristes.
Oui. Ben oui, je pense que de se retrouver là, tout le monde s'y est senti confortable, comme si c'était une page d'histoire.
Et la scène, c'est leur chez-eux. C'est là qu'ils travaillent.
Et c'est important pour vous de parler de santé mentale dans l'industrie de l'humour. Est-ce que le clown est triste? Est-ce que le clown est plus triste que le commun des mortels?
En fait, je pensais que oui. Il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y avait une étude qui était de la Grande-Bretagne qui disait que les humoristes avait tendance à être peut-être plus dépressif ou que le reste de la population. Mais dans le documentaire, Marie-Augène nous dit « Ah, je pense pas que le clown soit plus triste que le reste de la population. » En fait, ce qui donne peut-être cette impression-là, c'est l'écart. C'est-à-dire qu'ils sont acclamés sur scène en nous faisant rire, puis après ça, ils retournent dans leur voiture seuls ou dans leur chambre d'hôtel seuls.
C'est Marie-Augène qui raconte qu'il a déjà pleuré après un spectacle.
Oui,
hein,
parce que là, t'as vécu quelque chose de tellement fort... Puis, en même temps, tu vis peut-être certaines choses dans ta vie, puis c'est là que ça fait un clash incroyable. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus frappant. Mais en même temps, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que c'est pas facile de faire de l'humour. C'est plus facile de faire du drame que de faire de l'humour. La pression est grande. Il y a des humoristes. Les humoristes sont appelés partout là, sur la scène culturelle là, et médiatique. Là. Je veux dire, les humoristes font de la radio, de la télé. Elles sont en show, font du cinéma, écrivent.
Faut toujours être drôle.
Faut puncher.
Je le dis d'ailleurs. Hein?
Mais oui, tout à fait, tout à fait. Puis les humoristes aussi sont des petites PME, c'est-à-dire que si tu fais pas ton show, ben il y a un paquet de gens qui dépendent de toi. Donc, veux pas, c'est une pression aussi supplémentaire. Là.
Puis l'aspect, je pense aussi, moi qui m'attirait, c'est de la solitude parce que, bon, des fois, il y a des duos en humour, mais souvent, c'est t'es seul. Fait que même si t'as ton équipe, il y a du monde qui crée avec toi, il y a du monde qui monte le show avec toi, à la fin, t'es seul sur scène.
C'est toi qui vas au bat.
C'est toi, exactement. Fait que si il y a un étudiant, à un moment donné, dans l'école de l'humour qui dit, tu sais, si tu réussis, c'est toi, mais si tu réussis pas, c'est toi. Mm-hmm. Et donc, ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Fait que ça m'attirait beaucoup cet aspect-là, de la solitude. Mais en même temps, ça d'être tellement acclamé puis adoré, puis
De vivre aussi avec l'amour du public.
Et c'est ça.
Et il y a des experts qui se prononcent, entre autres, une experte, Christelle Paré.
Oui, qui est une chercheure en humour, là, donc, dont c'est vraiment l'expertise. Puis sinon, Louise Richer, son apport était vraiment précieux parce que, bon, Louise Richer, les gens ne le savent peut-être pas, mais elle étudie aussi en psychologie, là, donc elle est très proche humainement. Elle est très proche des gens, très proche, très à l'écoute de ses étudiants. Puis comme elle forme les humoristes de demain, je pense que c'était la témoin idéale aussi pour pouvoir nous raconter un peu l'évolution puis nous expliquer en quoi c'est important. Parce que quand elle évoque ne serait-ce que la popularité, bien la popularité peut créer aussi un débalancement chez les gens. Puis il y a certains humoristes qui gravitent vraiment très, très rapidement. Donc ça peut entraîner un certain débalancement, une vulnérabilité aussi. Donc il y a des choses... c'est une femme qui est hyper pertinente puis qui a vu passer des générations d'humoristes. Donc ça aussi, c'était précieux de l'avoir avec nous.
Alors, le clown est triste. Il faut découvrir ce documentaire. Est-ce qu'il y aura une suite? Parce qu'il y en a plus... Là, il y a 7 humoristes qui font partie du documentaire.
Oui, il y a 7 humoristes, effectivement.
Et il y en a peut-être d'autres qui vont avoir le goût de s'exprimer après l'avoir vu. Qui sait? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait d'en faire une suite ou une série?
On dit jamais non au beau projet, là. Mais pour l'instant, ça a été pensé comme un documentaire unique.
Et si la conversation peut juste continuer dans la société, c'est plus ça que n'importe quoi qu'on espère, exactement.
Oui. Puis que les humoristes, le fait d'entendre quelqu'un que t'aimes parler de la santé mentale, puis je pense surtout à une génération comme des Jean-François Mercier ou des Marie-Augène, des fois les hommes osent moins parler de santé mentale, donc ça devient une inspiration pour nous, ces missions accomplies.
Ça enlève jusqu'à un certain point l'idée préconçue que tous ces humoristes-là, ces comédiens dits drôles, sont pas nécessairement heureux dans la vie ou ils vivent aussi des problèmes comme tous les humains. Là.
Oui.
Oui, absolument.
Alors ça va se dérouler, la diffusion aura lieu le 24 janvier, la journée de Belle Cause pour la cause, à 19h à Canal Vie et aussi à 20h sur Nouveau, puis le documentaire sera aussi disponible sur Crave et Nouveau à partir du 24 janvier. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Plante et Giuliano Bossa, réalisateur de ce documentaire. Je rappelle qu'il s'intitule « Le clown est triste », documentaire qui tente de comprendre et de démystifier la présence accrue d'enjeux de santé mentale chez les humoristes. Merci.
Merci à vous.
Beaucoup.